Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
Best cheesesteaks in town.
Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
They sure are.
We make it so easy for her to save, with customised coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
Not this onion I'm chopping?
It's just so beautiful. Oh, yeah, nice, the onion.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico.
Retrouvez Anjou Pop Corner sur tous les réseaux et toute l'année sur les conventions pop et geek culture partout en France.
Vous allez maintenant écouter l'interview du youtubeur Gus DX par Todalf et Wartox. Cette interview a été enregistrée lors du Bordeaux Geek Festival le vendredi 27 mai 2022.
Bon, du coup, on est parti.
Eh bien, c'est parti. Bah, du coup, aujourd'hui, pour cette interview, on reçoit le grand, l'immense Gus DX, le chasseur de fantômes, essentiellement, mais pas que.
C'est un tout petit peu exagéré, quand même.
Non, si. En termes de chasseur de fantômes, sur Internet, il n'y en a pas beaucoup. Mais non, la référence, vrai. Ça reste quand même plutôt toi. Même aujourd'hui, malgré d'autres gars comme le grand Gideo, etc.
Pour certains, enfin, la référence, je sais pas, il y en a qui le disent. Mais je pense qu'il y a... En fait, il n'y a pas vraiment de référence. Chacun fait... Il y en a beaucoup maintenant. Enfin, il y en a un certain nombre qui font ça aussi. Il y en avait moins il y a 10 ans. Il y a 8-10 ans, quand j'ai commencé, il n'y avait que moi, le grand JD qui a embrayé. J'entends sur YouTube.
Oui.
Et puis,
oui.
C'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a plus. Mais chacun fait un peu le format à sa façon. Et...
Oui, bien sûr.
Voilà.
Mais après, derrière, c'est par rapport aussi à la qualité. Parce que chasseur de fantômes, ça reste toujours...
Mais de toute façon, je prends les compliments.
Oui, non,
pour mon livre, j'en ai bien besoin en ce moment, donc il n'y a pas de problème.
Non, mais je trouve ton contenu exceptionnel et on est toujours dedans. Mais justement, quand tu es chasseur de fantômes et que tu fais des missions de chasse aux fantômes, l'important quand on t'appelle, c'est aussi la qualité de ton travail, le sérieux, tout ça. Alors que c'est toujours très compliqué de trouver du sérieux dans un truc un peu ésotérique aussi à un moment donné. Oui,
alors j'ai pas toujours été sérieux. Enfin, c'est le sérieux aussi évolue. Quand j'ai commencé il y a 10 ans, moi je m'étais beaucoup inspiré de ce que j'avais vu à la télévision ou chez les Américains. Et c'était. Moi j'ai commencé sans même savoir ce qu'était le rationalisme, le scepticisme,
oui, bien sûr, ouais.
Même l'aspect scientifique qu'il pouvait y avoir derrière. Et donc, moi, c'était la porte ouverte aux fantômes. Tout était fantôme, tout était étrange, tout était paranormal. Et puis, avec le temps, avec l'expérience, j'ai affiné mon jugement, je suis devenu un peu plus objectif. Et puis, à force d'erreurs de parcours aussi, voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je fais un travail qui est plus réfléchi et qui va certainement évoluer aussi avec le temps.
Oui, bien sûr. Ouais. Mais justement, quand tu t'es lancé là-dedans, pourquoi à la base? Parce que justement, les émissions de chasseurs de fantômes qu'il y aurait pu y avoir à la télé t'intéressaient ou c'est juste la métaphysique, les fantômes, les démons
crois que comme plein de gens, tout ce qui est un peu fantastique, magique, horrifique, fantomatique m'a toujours plu.
Oui.
Par exemple, les films Ghostbusters, pour moi, sont incontournables dans mes références d'adolescents et même d'enfants. Et effectivement, les émissions que j'ai vues m'ont vachement intéressé. Et au début, moi, je faisais... avant Chasseur de fantômes, je faisais des vidéos dans Minecraft.
Oui, oui, oui.
Et j'utilisais beaucoup Minecraft comme un support pour créer les univers que j'aimais. Par exemple, j'ai été très fan, un peu moins aujourd'hui, mais de The Walking Dead. Et en fait, dans Minecraft, j'ai recréé des aventures à la The Walking Dead. Ça me permettait de vivre ce que je ne pouvais pas vivre en vrai.
D'accord.
Et
ouais.
Donc, dans Minecraft, j'avais créé des fausses chasses aux fantômes pour vivre ça, quoi. Et ça n'avait plu aux gens. Et un jour, j'ai proposé au public qui me suivait de le faire pour de vrai. On m'avait parlé d'une maison qui était possiblement hanté et j'y suis allé passer une première soirée avec des caméras que j'ai achetées pour l'occasion. Et d'ailleurs, pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils me voyaient en vrai.
Ah bah oui, bah oui.
Enfin, mon visage, parce que dans Minecraft, c'était un avatar. Et j'ai commencé comme ça et je me suis pris au jeu et les gens aussi. Voilà, le public aussi.
Mais justement, et alors le passage justement de passer d'être incarné par un avatar à ta personnalité à toi, est-ce que toi, ça t'a fait quelque chose généralement sur Internet?
Alors moi, perso,
c'est une question qui se pose, quoi.
Alors, je sais pas, mais alors moi, ça me dérangeait pas au départ. Mais en fait, c'est quand j'ai commencé le paranormal, j'ai découvert un public très différent aussi de celui de Minecraft. J'arrivais d'un milieu bisounours où tout était super, tout était cool. à un milieu beaucoup plus adulte, beaucoup plus dur, beaucoup plus agressif, beaucoup plus critique aussi. Et je me suis mangé tout de suite retours assez complexes à gérer. Et notamment, là où je, voilà, pour répondre à la question, des gens qui me disaient « Oui, ce gars arrive de Minecraft, il n'a aucune légitimité. Son public, c'est un public de gamins. » Alors qu'en fait, mon public n'était pas forcément que des enfants. Enfin, ça a été... Donc moi, ça ne m'a pas gêné, mais j'ai dû arrêter Minecraft parce qu'effectivement, on m'a fait comprendre que les deux, c'était pas possible, c'était pas sérieux. D'accord. Et je regrette un peu d'avoir écouté ces remarques-là à l'époque.
Mais t'avais pas une chaîne gaming à un moment ? T'avais pas fait les deux en même temps ?
Alors, suite à ça, j'ai créé effectivement une chaîne gaming à côté où j'ai pu continuer le gaming. En fait, j'ai arrêté complètement le gaming pendant des années et j'ai repris 3 ans plus tard, en live essentiellement. Et donc, j'ai une chaîne Twitch où je fais du live 1 à 2 fois par semaine. En général, c'est plutôt 1 fois par semaine. Principalement sur des jeux vidéo d'horreur, parce que j'adore ça. Et je trouve qu'en live, c'est assez sympa à faire.
Ouais.
D'ailleurs, j'y joue assez peu, pas en live d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Mais en live, à partager, c'est cool. Et les replays sont renvoyés sur une chaîne YouTube, GusDX Gaming.
D'accord.
Parce que je me rappelle que tu avais une série, alors c'est pas du tout dans l'horreur, mais Zoocraft ou un truc de ce style-là aussi. Et moi, c'est vrai que j'ai des très bons souvenirs aussi sur ça.
Ouais, dans Minecraft, j'ai fait un zoo. J'ai fait une série avec une chèvre sur une île déserte.
Oui, c'est vrai.
C'est un peu bizarre avec du recul.
La chèvre de Monsieur Seuilla.
C'est ça. Ouais, c'est un peu ça. Seul, sauf qu'au bout de 40 jours, les rapports entre moi et la chèvre devenaient un peu trop intimes. Donc, c'était une vraie histoire de cube avec elle. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Ouais, j'ai fait plein de trucs dans Minecraft. Et puis, ce qui a vraiment, vraiment marqué les gens, je crois, c'est... ma série de chasse aux fantômes fictive.
Ouais.
Voilà. D'ailleurs, j'ai fait un peu de fiction aussi. À une époque, j'ai arrêté un peu chasseur de fantômes pendant un an. J'ai essayé de faire de la fiction. Bon, c'était ce que c'était. Voilà, ça m'a amusé, mais c'était pas complètement ce que j'aimais faire. Donc, je suis revenu à chasseur de fantômes.
Mais justement, moi, je sais plus comment s'appelle cette émission que tu avais fait de fiction de chasseur de fantômes.
Ouais. Capture Dead Farms. Capture
Dead Farms. Moi, j'avais trouvé ça très, très ouf en fait, parce que du coup, c'était uniquement de la mise en scène, mais sur des formats très longs. En fait, c'était quasiment des formats films, parce que c'était une heure et deux heures, quoi.
Exactement. Ouais. Mais mes épisodes de Chasseurs de Fantômes durent déjà des heures. Hein,
Justement.
Le problème que j'ai eu, c'est que j'étais tellement accroché à mon émission de base que même avec cette fiction, j'ai pas osé aller à fond dans la fiction et quitter. Ce que j'aimais faire. Et c'est pour ça que je m'y suis pas retrouvé complètement. Et puis jouer l'acteur, je suis pas... avec du recul, j'étais pas complètement à mon aise. Et moi, ce que j'aime, en fait, c'est aller sur un lieu et me laisser transporter par ce qui va se passer.
Oui.
Et vivre comme un reporter, quoi, tu vois, un journaliste. Et quand tu fais de la fiction, il faut tout préparer, tout écrire, tout envisager.
Ah bah
et
oui.
Bon, c'est un autre travail et c'est pas un travail qui m'a tant amusé que ça. Dans Minecraft, c'était différent parce que dans Minecraft, j'improvisais beaucoup. C'était vraiment puis il n'y avait pas la pression d'un public qui attendait.
Oui, c'est ça. Voilà. Puis c'était pas du machine pas non plus quand tu faisais tes histoires sur Minecraft.
Un peu quand même. C'était assez travaillé. Ouais.
Ouais, avec des maps préparées à l'avance.
Ouais, il y avait quand même pas mal de boulot.
Ah oui, d'accord, ok. Et donc du coup, juste le capture dead form, tu penses que c'est un format qui ne va pas forcément revenir. Ça ne te plaît.
Alors ça me plairait de le refaire de la fiction. Mais pas en étant devant la caméra, mais derrière.
Ah oui, d'accord, ok.
C'est-à-dire réaliser quelque chose, mais je suis tellement exigeant qu'il va me falloir des bons acteurs. Enfin, il faudrait vraiment que ce soit quali, quoi. Des éclairagistes, un super son, Et c'est de l'argent, c'est du temps surtout.
Ah oui, c'est ça, oui.
Et le temps et l'argent, ça va ensemble. Donc réussir à dégager ça, c'est pas évident.
C'est ça, et surtout, tu prends beaucoup de temps aussi pour tes montages de chasseurs de fantômes.
Tout à fait.
C'est compliqué. Mais d'ailleurs, est-ce qu'aujourd'hui, ta chaîne te permet de vivre convenablement ou...
Alors, la chaîne YouTube, non, pas vraiment. Enfin, ça me fait une rentrée d'argent, mais pas assez suffisante. Moi, je fais, en général, un épisode de chasseurs de fantômes, il me faut 3 mois.
Oui.
Donc, c'est 4 par an. C'est trop insuffisant pour en vivre qu'avec YouTube. C'est pour ça que j'ai mis en place un système de VOD, c'est-à-dire que les gens peuvent acheter ma vidéo en avance avant qu'elle sorte sur YouTube pour pouvoir la voir.
Ouais.
Et c'est ça qui me permet en fait de me payer personnellement et surtout de financer le travail.
Et le matériel aussi.
Ouais. Et le matériel. Là, alors en général, c'est 3 mois. Là, ma dernière vidéo, celle que je suis en train de faire actuellement.
Que j'attends. Hein.
J'ai commencé en janvier et je commence à peine le montage aujourd'hui.
Ah oui.
J'en suis déjà à plus de 4 mois de travail et j'espère la sortir fin juin. Et j'avoue que je me suis mis un peu dans la merde parce que j'ai pas le budget pour travailler aussi longtemps.
Bah oui, non mais c'est sûr.
Mais le sujet, je sais pas, m'a embarqué et là je sors de 4 mois de recherche comme j'en avais jamais fait sur aucun lieu, aucune histoire de fantôme. Là, je suis vraiment allé très loin dans mon investigation, en fait, documentaire.
Mais justement, alors du coup, quand tu prépares une émission de chasseurs de fantômes, comment ça se passe ? C'est des propriétaires de maisons qui pensent hanter qui te contactent ? C'est toi qui découvre, qui va chercher des maisons hantées qui pourraient être accessibles pour faire des analyses ou pour faire de la recherche. Et comment ça se passe après derrière entre la communication entre les propriétaires et toi ?
Alors c'est un mélange un peu de tout ça. Trouver un lieu, ça va être un viewer, quelqu'un qui suit mon travail, qui m'envoie une proposition, me disant tiens il y a tel endroit, ou alors ça va être moi qui vais lire un article qui parle d'un château hanté et qui va avoir envie d'y aller pour vérifier si effectivement il se passe quelque chose. Donc il n'y a pas vraiment de recette, c'est un peu au feeling aussi. Et après le démarchage, si c'est un château qui est une propriété, en général je fais une demande d'autorisation avec un dossier que j'envoie hyper clair, qui montre ce que je fais, mon ambition, mon travail, le projet. Et puis, en général, c'est accepté. Souvent, il faut payer aussi. La plupart des lieux demandent financement. Tous les lieux où j'ai été, en général, il faut payer. Après, tu as aussi des lieux qui sont plus urbex, donc des lieux abandonnés. En général, j'essaye de savoir s'il y a un propriétaire pour avoir quand même l'autorisation. Si je ne trouve pas de propriétaire, s'il n'y en a pas, parce qu'il y a toujours un propriétaire, c'est totalement impossible, en général, je décide de prendre soit le risque d'y aller, soit de... Mais je n'ai pas fait tant de vidéos dans des lieux sans avoir l'autorisation. Il doit y en avoir peut-être deux ou trois. Grand max sur j'en ai pas fait tant que ça non plus.
Oui, non, mais bien sûr.
Sur la vingtaine, voilà.
Mais et du coup, tu as tout un travail de préparation aussi, je suppose, en amont de la prise de vue. Généralement, ça dure combien de temps ? Enfin, est-ce que justement, si tu fais une
c'est très relatif en fait.
Non, par exemple, si tu fais une analyse avant une vidéo ou enfin, est-ce que tu vas dans le lieu avant la vidéo pour voir s'il se passe quelque chose déjà ou juste le feeling avec le propriétaire ?
Ça dépend. Il m'est arrivé d'aller faire plutôt des repérages, des repérages pour voir si le lieu, comment c'est fichu, si c'est dangereux, si. Mais la plupart du temps, après le contact, ça dépend aussi si le lieu est loin ou pas. Si c'est à 4 heures de route, je ne vais pas aller faire un repérage, en général. Mais ça peut être très bien quelqu'un. J'ai une proposition aujourd'hui et ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps. On m'a contacté et le soir même, j'étais là-bas. Donc ça peut aller très vite. Je peux préparer du matériel très vite pour aller sur place. Mais dans le cas de l'enquête que je suis en train de travailler actuellement, par contre, ça va être très différent parce que c'est un château qui est très grand. J'ai prévu de mettre tout un système de vidéosurveillance. Des micros, beaucoup de micros partout. Pendant plusieurs jours, je suis parti 6 jours. Donc c'est l'enquête la plus longue que j'ai faite. Et j'y suis retourné un mois plus tard, repassé un week-end et une nuit.
Ah oui, d'accord.
Donc j'ai fait un travail assez monumental. Enfin, monumental en termes de... Je ne sais pas si le rendu sera monumental, mais le travail l'a été. Donc il n'y a pas vraiment de recette. Mais là, sur celle sur laquelle je travaille en ce moment, il y a eu un gros travail de préparation.
D'accord.
Et du coup, après... alors, moi, je vais avancer un peu dans le temps, dans le sens où, après genre 5-6 ans de chasse de fantômes, est-ce qu'on a toujours le même engouement quand on y va ? Est-ce qu'on a toujours la même envie ? Ou est-ce que ça va se faire un peu au fur et à mesure ?
Quand je termine un épisode, c'est-à-dire quand j'ai fini de faire le montage, le travail d'analyse, enfin que la vidéo est faite et que je la publie, en général, je suis tellement rincé par le travail que j'ai fait que je me dis, c'est le dernier épisode, j'arrête. Et en fait, 2 semaines après, je commence déjà à ressentir à nouveau le feu, l'envie, la passion, et en général, je repars directement derrière. Je vais avoir plus de facilité à parler de la vidéo que je suis en train de travailler en ce moment. Ouais. J'avoue que je commence à fatiguer un peu là. Après 4 mois de boulot, c'est un peu dur.
Ouais, je comprends.
Mais oui, non, après 6 ans, moi ça me passionne toujours autant. Et j'ai toujours autant envie de. Alors je sais pas ce qui me passionne le plus. Moi, en fait, ce qui me passionne le plus aujourd'hui, c'est d'essayer de. J'aime bien ce côté investigation, mais pas seulement l'enquête sur place. Je commence à prendre vraiment goût à la recherche documentaire qu'il peut y avoir derrière, essayer d'avoir des témoins. Là, sur l'enquête que j'ai faite, j'ai contacté 10 de personnes qui ont vécu des choses étranges dans les années 80, donc 40 ans en arrière.
Ah oui.
Et retrouver ces gens-là, discuter avec eux en interview, c'est génial. J'ai retrouvé le journaliste qui a été dans ce château en 84 et qui, avec TF1 et France Inter, enfin, j'ai retrouvé. J'ai réussi à l'avoir au téléphone et pendant plusieurs heures, on a discuté. Et c'était génial. Enfin, je trouve ça aussi très intéressant. Et donc j'essaie d'aller vers ça aussi avec Chasseurs de Fantômes. Et c'est quelque chose que je faisais pas avant.
Et justement, alors du coup, toi, quand tu fais des montages et des vidéos sur la chasse aux fantômes, toi, ton but à toi, c'est d'avoir des preuves que les fantômes existent, ou c'est plus un divertissement et s'il se passe des choses, tant mieux, quoi.
Alors il y a toujours ce côté divertissement avec ce côté... les gens viennent voir ça souvent pour se faire peur.
Oui.
Mais moi, c'est pas ce qui va. Alors, la peur, elle va venir du ton, de la musique, de certains événements qui peuvent se produire, qui sont pas forcément des trucs dingues. Mais moi, mon objectif, c'est à l'heure d'aujourd'hui, je prends autant de plaisir, entre guillemets, à démystifier quelque chose, à trouver une explication logique, rationnelle, normale, qu'à être confronté à un fait un peu plus inexplicable.
Oui.
Donc d'accord. Les deux me conviennent et je trouve ça aussi passionnant et intéressant de pouvoir dire bon bah là, si mon appareil a clignoté, je sais pourquoi, parce que j'ai découvert qu'il y avait ça. Ou si on raconte qu'il y a un fantôme, en fait j'ai découvert que.
Oui.
Et ça je trouve ça aussi intéressant à l'heure d'aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant.
Hein, oui, je comprends.
Aujourd'hui, ouais. Voilà. Et par contre, effectivement, si j'arrive à filmer le château où j'étais, apparemment, il y a une dame blanche qui apparaît.
Ah.
Réussir à la filmer, ce serait top.
Ah bah oui, carrément.
Je vais pas vous spoiler l'épisode, mais c'est effectivement un peu le but aussi, oui.
Bah non, mais c'est sûr.
Et même si je sais très bien que c'est souvent ce que je dis, ça reste de la vidéo, et que oui. Les gens ne pourront jamais avoir la certitude que ce qu'ils voient est vrai.
Oui, mais voilà. Oui, quand tu arrives aussi à... Justement, tu ouvres aux interviews d'anciennes personnes qui ont vécu des choses dans le château, essayer d'avoir des images d'archives...
Ça reste des témoignages. Voilà.
Ça reste des témoignages, mais ça rajoute toujours un petit peu plus dans la véracité. Enfin, on comprend aussi que dans tes vidéos, tu veux pas non plus fausser les résultats que
tu disons qu'au bout d'un moment, quand tu as 10 témoignages qui te disent, de personnes qui te disent qu'ils ont vu quelque chose dans un endroit précis dans un château, bon, ça reste... Ça prouve pas grand chose
non plus.
Ça prouve
pas grand chose, mais.
Mais ça commence à être un début de quelque chose. Tu dis, il y a quand même. Ah, c'est quand même étrange. Alors, est-ce qu'on a affaire à une hallucination collective, même si les gens sont pas ensemble à chaque fois, mais voilà. Donc, c'est ça qui est super intéressant, d'essayer aussi de comprendre pourquoi des personnes pensent que c'est hanté chez eux, ou pourquoi est-ce qu'ils ont cru vivre quelque chose d'étrange.
Bah oui, oui.
Et ça pourrait très bien se rapporter à mes propres expériences personnelles.
Bah oui, du coup. Ouais.
Parce que toi, tu as eu des véhicules. Enfin, en dehors de tes chasses aux fantômes, tu as déjà eu des expériences un peu
particulières. Ouais, moi, je pense avoir vécu des trucs. Enfin, il y a des choses que j'ai vécues, même ado ou plus tard, jeune adulte, pardon. Et même encore plus tard, et même dans mon parcours de chasseur de fantômes, des trucs certaines qui sont filmées et montrées, mais que je n'explique absolument pas, quoi. Qui me dépassent. Et après, je comprends tout à fait que les gens puissent en douter.
Oui, non, mais bien sûr.
Mais voilà, après, j'essaye aujourd'hui aussi d'avoir un discours un peu différent de celui de mes débuts, où je voulais à tout prix que les gens me croient, que les gens... aujourd'hui, voilà, chacun pense ce qu'il veut. Moi, je fournis mes vidéos.
Oui.
J'essaye d'expliquer que quoi que l'on puisse y voir, ça reste avant tout un divertissement.
Mais bien sûr. Mais après, voilà, c'est l'ésotérisme, au bout d'un moment, c'est un peu comme de la foi aussi. C'est-à-dire que on y croit pas. Tant qu'on n'a pas vécu une expérience qui nous change ou qui nous permet de nous dire oui ou non, même sans expérience, même sans avoir vécu quelque chose, nous dire que c'est vrai ou que c'est faux, ça
oui,
reste...
Non, mais même moi, avec les choses que j'ai pu vivre, je suis absolument pas en mesure de te dire si les fantômes existent, s'il y a une vie après la mort. Par exemple, je peux te dire, oui, une nuit, dans une maison, j'ai entendu grincer le parquet. Et quand j'ai ouvert la porte, il n'y avait personne. Ça, c'est par exemple quelque chose qui m'est arrivé.
Oui.
Pour autant, je ne peux pas dire que c'était un fantôme, c'est sûr. Il, s'appelait,
bien sûr, oui.
Il s'appelait Frédéric.
Et surtout sur les vieilles maisons, c'est toujours voilà. Très compliqué de se dire il y a le bois qui craque ou c'est les plates fantômes. Quoi.
C'est ça, t'as plein de facteurs.
Alors, t'as le bois qui craque et t'as le bois qui craque.
Oui, c'est vrai que
c'est faire la différence entre.
Oui, mais quand on est stressé avec dans le noir et tout, même dans ma maison de campagne. Il y a des trucs, je me dis, je préfère, heureusement que je suis pas tout seul. Quoi.
Oui, puis ce qui est super intéressant aussi, c'est de se rendre compte de l'influence que peuvent avoir
l'interprétation.
Ouais, puis les vidéos qu'on regarde, les contenus qu'on va lire. Et des gens, je reçois souvent des témoignages de personnes, tout le temps, mais souvent des gens qui me disent oui, j'ai vécu ça dans ma maison, c'est incroyable, je ne l'explique pas, ça me fait très peur. Et qui derrière concluent d'ailleurs, j'adore tout ce que tu fais, j'ai tout regardé depuis le début. Et tu te rends compte au fait que. Ces gens-là sont quand même un petit peu influencés par ton travail.
Oui, bah,
moi, j'ai le souvenir que quand je regardais, donc il y a 10 ans, Ghost Adventures, les Américains là, qui font de la chasse aux fantômes, je partais me coucher la queue entre les jambes, limite la lumière allumée, parce que j'avais peur.
Ouais,
alors, ça me le fait plus aujourd'hui parce que j'ai un peu de bouteille, mais c'est vrai que psychologiquement, c'est très difficile au bout d'un moment de faire la part des choses entre ce que l'on s'imagine et ce qui est réel.
Et du coup, c'est déjà arrivé à des moments en tournage où tu t'es dit c'est mort, ça fait trop peur, genre je vais arrêter et juste je stoppe là et puis
ça m'arrive il y a presque encore mon dernier tournage où je suis retourné plus la fois où j'ai... Alors les 6 premiers jours j'étais accompagné parce qu'il y avait beaucoup de matériel à installer, donc tout seul, même à deux, on a mis 2 jours à tout mettre en place.
Ah oui.
Donc tout seul j'aurais passé la semaine. Donc on était 2, donc c'est rassurant. Mais quand j'y suis retourné tout seul un week-end, le soir me retrouver tout seul dans ce château. Dans l'endroit où est censé apparaître le fantôme, t'as beau faire ça depuis 10 ans, t'as beau être un peu aguerri, le petit courant d'air froid qui arrive tout d'un coup, au moment où tu viens de demander est-ce qu'il y a quelqu'un, ben t'es pas bien quoi. Et donc tu ressens toujours ces sensations, tu dis ouais je me casse. Mais bon maintenant j'arrive à rester sur place. Sachant que le courant d'air est explicable, hein, c'est.
Voilà. Non, ouais.
C'est l'air.
Mais sur le moment, c'est toujours bizarre.
Ouais, non, bah oui, c'est toujours, ça doit être
toujours la mauvaise interprétation quand t'es stressé de toute façon.
Enfin, c'est très difficile. Ouais, c'est très difficile de garder les pieds sur terre quand on est dans ces situations-là.
Et est-ce que t'as déjà voulu.
D'ailleurs, ça me fait pas. Excuse-moi, je te coupe. Il y a une phrase, c'est je ne crois pas aux fantômes, mais j'en ai peur. Non, mais tu vois, c'est ça. C'est beaucoup de gens qui vont te dire ah mais moi à ta place, j'aurais pas. Les fantômes, en fait. Un sceptique qui dirait que les fantômes n'existent pas devrait ne pas avoir peur dans un lieu hanté. Mais je me défie beaucoup d'aller tout seul dans un lieu et de ne pas avoir peur pour autant.
Et en plus, c'est sûr qu'on fait aussi le lien, si on s'intéresse un peu à tout ça aussi, il y a le lien entre les fantômes, les démons, et les esprits un peu malicieux, et trucs comme ça. Donc, sur le principe, on peut jouer, mais voilà, dès qu'on tombe sur quelque chose qui nous amène à faire une mauvaise expérience, le mieux, c'est pas de le tester, quoi. C'est surtout ça.
Ouais, aussi, ouais.
Mais toi, t'as essayé justement d'aller au-delà, justement, avec une table de Ouija, par exemple, qui te permet, sur le principe, d'entrer en communication avec des démons, par exemple.
Alors, la table de Ouija permet, a priori, d'entrer en communication avec des esprits, pas forcément des démons, hein, mais des esprits en général. Oui, j'ai fait beaucoup d'expériences, même jeune, en fait. J'étais au collège, moi, quand j'ai commencé à en faire ce genre de choses. Ouais. Des copines qui m'avaient appris à faire ça. Et j'ai vécu quelque chose qui m'a vraiment un peu traumatisé, enfant. Suite à ça, donc j'avais complètement arrêté et puis je l'ai refait jeune adulte et là où je vivais, dans le logement que j'avais en tant qu'étudiant, juste après ça il s'est passé des choses très étranges dans cette maison. Donc est-ce que c'est moi qui ai psychoté, est-ce que ça a eu un impact sur moi, j'en sais rien, mais c'est vrai que mes expériences avec la Ouija n'ont pas toujours été très bonnes, puis il y en a eu d'autres qui ont été bonnes aussi, enfin qui n'ont pas été graves non plus. Donc, mais quelle était ta question? Oui, si je l'avais déjà fait en fait.
C'est ça.
Et du coup, moi, je voulais parler au niveau du matériel. Alors, du coup, tu m'as dit que tu as acquéri beaucoup de matériel au bout de 10 ans, donc même toi, tu as dû voir l'évolution. Mais est-ce que, au niveau de la chasse de fantômes, est-ce qu'il y a une évolution en 10 ans, peut-être du matériel plus précis, ou est-ce que ça reste toujours dans le même niveau actuellement?
Alors, il y a surtout une façon différente d'utiliser, de comprendre le matériel. Moi, au début, quand j'ai commencé, on m'avait dit que cet appareil captait les fantômes. Je me baladais avec, et dès que ça se mettait à clignoter, pour moi, c'était un fantôme. Avec le temps, j'ai compris que cet appareil en fait réagissait à tout un tas d'ondes électromagnétiques et qu'en fait, il y avait des explications. Et donc, ma façon de travailler a changé. Et l'utilisation de cet appareil n'est plus la même. Au niveau du matériel, moi, ce qui reste finalement l'essentiel, la base et le truc... Si on me demande, qu'est-ce que tu me conseilles comme matériel? J'ai une caméra, finalement. Une caméra, un bon micro. Parce que ce qui va te permettre, peut-être, d'enregistrer quelque chose qui pourrait ne pas être trop normal, quoi.
Et puis tu expérimentes aussi beaucoup de matériel dans tes vidéos.
Après, j'expérimente des choses.
C'est ça.
Mais la plupart du temps, en fait, c'est vrai que tu as envie de te reposer sur le matériel pour avoir du contenu, quoi, pour avoir des choses à essayer, avoir des choses à montrer. Et
c'est ce qui fait preuve aussi, ce qui fait foi, quoi. Voilà.
Mais en général, c'est pas avec le matériel, moi, que j'ai eu les trucs les plus intéressants, en fait.
Oui.
Et c'est souvent parfois aussi des choses inattendues, des choses que j'avais pas pensé ou prévu, ou pas au moment où ça se passe, enfin pas au moment, la plupart du temps pas au moment opportun, en fait.
Non, mais je comprends. Ouais. Et là, il y a beaucoup de, justement, de chasseurs de fantômes sur YouTube. Est-ce que des featuring, des fit and pas fun forcément, ça t'intéresserait, par exemple avec justement le Grand JD ou avec Feldup ou des trucs comme ça?
Alors, le Grand JD m'avait contacté il y a 8 ans suite à mon deuxième épisode, en me proposant d'être caméraman, de me suivre, en fait. Ouais. Il voulait un peu qu'on fasse ça à deux. Et moi, je voulais arrêter à l'époque parce que ma deuxième enquête avait été traumatisante. Je pense que je débutais, j'avais été un peu trop loin dans... Enfin, j'avais dépassé un peu le peu de courage que j'avais à l'époque. Et puis, je pense avoir vécu ce jour-là des choses un peu bizarres. Et donc, j'avais en projet d'arrêter, donc j'avais dit non. Finalement, je m'y suis remis. Mais on ne s'est jamais recontacté. Non, c'est pas en projet. Puis moi, j'aime bien être seul. La dernière enquête que j'ai faite, là on se retrouve le dernier soir, on est 4.
Ouais.
Et je sais pas, c'était agréable, c'est différent, c'est beaucoup plus convivial, mais j'avais pas le sentiment d'être complètement à mon affaire. J'étais pas à fond dedans.
Ouais.
C'était pas la même chose. Donc je crois que je préfère quand même être seul.
Ah oui, quand même.
Et les featuring, non, c'est pas prévu, c'est pas envisagé.
Non, mais sur avoir un domaine d'expertise qui peut être différent du tien, justement, le Grand JD, il a
commencé à avoir. Après, on me le propose pas non plus.
Oui,
donc,
mais voilà. Mais voilà. Un petit message sur Insta pour le Grand JD.
Non, en général, ça m'a jamais été proposé. Donc après, c'est à réfléchir.
Ok. Et donc du coup, ta prochaine vidéo, elle va, on l'espère, arriver sur en juin, c'est ça ?
Alors en VOD fin juin, dans un mois, mais je dis ça, je ne sais pas comment je vais faire parce que j'ai des journées de rush multipliées des dizaines de caméras et que j'ai un travail encore monstre à faire. Donc peut-être qu'il y aura deux épisodes sur cette enquête.
Ah ouais ?
Ouais, peut-être une fin juin, une fin juillet. Mais pas sur YouTube encore, ce sera d'abord en VOD. YouTube, ça va arriver, ce sera mi-juillet, enfin par là.
Voilà. Oui, d'accord, ok.
Ce qui n'est pas une bonne saison pour sortir des vidéos, mais bon.
Mais elles seront vues, hein, t'inquiète pas.
A priori, ouais, je sais pas.
Et tu as déjà approché pour un prochain lieu ou t'es trop dans le rush et
non,
pas
je suis
le temps
trop
de réfléchir.
Dans, voilà, j'arrive pas du tout à me projeter.
Ah oui.
Là, j'ai qu'une envie, c'est finir celui-là et ensuite réussir à me l'enlever de la tête. Là, je suis vraiment devenu. Je me suis fait un peu peur récemment en me disant mais t'es devenu un peu fou sur ce sujet, un peu obsessionnel, un peu trop aveuglé par mon envie de trouver des réponses.
Oui, non mais justement c'est bien, tu veux gratter le sujet jusqu'au bout pour justement
ouais,
t'assurer que tu loupes rien en info et des trucs comme ça. Surtout s'il y a des trucs exceptionnels dans cette maison.
Alors, exceptionnel, je sais pas. Alors j'ai pas envie de dire qu'il y a rien d'exceptionnel parce que les gens vont pas venir voir, c'est ce qui attire le public.
Oui.
Mais en même temps, non, pour moi il y a des choses très intéressantes. Je pense qu'elle. Elle va montrer des choses, en tout cas, voilà, le lieu où j'ai été, c'est le château de Vos. Il y a JRN Paranormal, Jordan Périgot, le grand JD avec Feld Up.
Ouais.
Et il y a, je crois qu'il y a d'autres enquêteurs qui vont y aller ou qui y ont été. Le château vient de réouvrir ses portes au Paranormal. Ah oui. Donc là, c'est un peu la fête du fantôme là-bas. Tout le monde y a été. Alors moi, j'ai hésité à m'y rendre aussi. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait un gros boulot. C'était pour proposer quelque chose de différent de tout ce que les autres ont fait.
Oui, bah oui.
Et je pense... sans trop me... en toute humilité quand même, arriver à proposer des choses que les gens ne savent pas, qu'ils vont redécouvrir, qu'ils vont peut-être mieux comprendre et voilà, enfin voilà. Voilà le projet.
Ok.
Et si jamais du coup t'avais... Alors bonjour Just Dance déjà, on s'est fait attaquer un seul coup. Si jamais... Non, il y a Just Dance qui m'a surpris,
ah oui,
je dois t'avouer. Si t'avais un lieu que tu... Dans toutes tes chasses de fantômes que t'as faites, un lieu que tu pouvais nous ressortir, que t'as trouvé ouf, soit dans l'ambiance ou... Ou dans ce que t'as vécu dedans peut-être ? Est-ce que t'en aurais assez dur de sortir que un ?
Puis alors, comme j'allais te dire le château où j'ai été récemment,
oui,
parce que
oui, c'est vrai
que
oui,
bah
oui,
c'est que j'ai du mal à être approché dans les autres. Un lieu où j'aimerais retourner en fait, c'est ça que tu...
Bah ouais, soit retourner ou soit même que t'as genre grave kiffé pour son ambiance. Parce que t'auras un lieu comme ça à nous ressortir de tes vidéos. C'est pas facile,
c'est
hein,
pas simple, non.
Un seul lieu, que, ouais, c'est toujours.
Ouais, ils ont tous leur intérêt, tous ouais. leur. Et en fait, je dirais même des lieux où j'ai été où il s'est rien passé de dingue, mais qui m'ont beaucoup plu. Le château de Bon Repos Riquet, qui est à côté de Toulouse. L'épisode s'appelle Dorothée êtes-vous là ? Parce que la dernière propriétaire était. Enfin, le fantôme serait une certaine Dorothée. Et il s'est rien passé d'extraordinaire pendant mon enquête, mais le château. M'a beaucoup impressionné l'intérieur et c'était un mélange. T'avais, l'étage du bas était très correct, même classe. L'étage du dessus, ça commence à être un peu creepy. Et le dernier étage, c'était limite urbex. Donc en fait, plus tu montais, plus c'était impressionnant en termes de lieu et d'oppression. Donc c'était vraiment intéressant. Okay. Et puis dans un seul lieu, t'avais trois ambiances.
Ouais.
Donc c'était assez étonnant.
Bah, ça change quoi. Et bah écoute, en tout cas, merci d'être venu nous parler de ton travail. Qui est incroyable. J'ai vu dans le chat quand même que suivre tes aventures reste quand même une expérience assez ouf. Et je partage cette idée parce que j'aime pas trop les. Enfin, si, j'aime bien les trucs un peu d'horreur, mais quand je regarde tes vidéos, je suis toujours à fond dedans. Je m'attends pas forcément à avoir une preuve ou un truc comme ça, mais je suis tellement à fond en me disant derrière cette porte, c'est sûr qu'il y a un truc. Que je trouve ton travail de montage.
Ah ouais, donc tu veux que la déception qu'il n'y ait rien derrière la porte quoi, pour
oui
le coup.
Mais après derrière je m'en fiche, c'est pas le résultat qui compte, c'est le sentiment que j'ai eu en me posant ces questions là quoi.
Mais c'est très bien que tu me dises ça parce que c'est toujours cette petite peur là qu'on a, c'est que les gens viennent vraiment simplement. Moi j'ai souvent des retours, mais ouais, il se passe rien de paranormal,
oui, bah oui.
Deux heures de vide, aucun intérêt. Et moi je trouve que même quand il se passe rien, c'est aussi intéressant parce
c'est
que un lieu soi-disant hanté où il se passe rien, alors ça prouve pas qu'il n'est pas hanté, mais voilà, ça amène aussi une autre réflexion. Et pour voilà, c'est enfin, en tout cas mon travail autour de cette émission aujourd'hui, c'est ça, c'est de ramener ou pas des éléments. Il y a pas de
oui, non, ça. Mais c'est ça, oui, mais c'est voilà, c'est le travail de montage
que tu voulais dire
aussi, mais Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup en tout cas d'être venu nous voir.
Merci à vous, merci. Ravi d'avoir été sur votre live. Et les gens ne savent pas, hein, mais on est en... il y a un peu de gens qui nous regardent. Et puis, on est à ciel. Enfin, ils savent un peu, vous montrez un peu ce qui se passe autour de nous ou pas?
Ouais, ça fait de la pub aux autres.
Il y a un hall en fait, on est dans un hall quoi.
Ben, oui,
c'est vraiment stylé. Ouais.
Attends, j'ai envie de prendre la caméra et faire comme ça.
Alors, si, dernière question, c'était ton premier salon ou t'en avais déjà fait avant?
Alors, le Bordeaux Geek Festival, je crois que je les ai tous faits.
Ok.
Et j'ai fait beaucoup de salons aussi un peu partout en France depuis ces 10 dernières années. Ouais. Non, j'en ai fait pas mal. Ouais.
Ouais. Du coup, toujours même kiff de revenir en salon pour voir les gens.
Ouais, il faudrait que je dise oui plutôt. Oui et non, parce que
on n'est pas engagé par Bordeaux Geek Fest.
Ah oui, tout va bien.
Non, le Bordeaux Geek Festival, c'est différent. Moi, je suis de Bordeaux en fait au départ. Et puis, je les ai connus du début. Ils m'ont toujours proposé de venir. Donc, il y a un attachement. Et quand ils me proposent d'être là, je viens obligatoirement.
Ouais.
Mais je vous cache pas que là, je suis tellement pris. Là, c'est 3 jours. Ah bah oui, non, je peux pas travailler sur mon montage. Je suis tellement en retard et tellement à fond dedans que c'est compliqué pour moi. Mais je suis ravi, oui, de revenir et de rencontrer. Ça me fait 3 jours de coupure. Donc, c'est bien.
Ah, super.
Bon, encore merci, du coup, pour ton temps.
Merci
et bah amuse-toi bien pour ce dernier jour et demi de salon.
Et pour le montage.
C'est ça, et pour le montage. Et puis
merci beaucoup.
Bah vivement ton prochain épisode du coup.
Merci beaucoup.
Salut.
Salut. Allez, à bientôt.
Merci d'avoir écouté Ange Pop Corner. Retrouvez tous nos podcasts sur vos plateformes préférées. Et retrouvez-nous toute la semaine sur Twitch.